Octave Mirbeau, un point de vue. Et voici comment il parla. Monsieur le juge, vous voyez en moi l'homme le plus stupéfait du monde. Vrai, je vous le jure, jamais je n'aurais imaginé qu'une telle chose fût possible. Après ces 15 jours de détention, de menottes aux mains, d'interrogatoires incompréhensibles, de courses vertigineuses entre deux gardes de la prison au palais et du palais à la prison, oui, malgré cette réalité horrible, j'en suis encore à me demander si je ne rêve pas. Et pourtant, non, je ne rêve pas. C'est bien moi qui suis ici devant vous. Nous ne sommes pas des fantômes qui vont se vaporiser aux premières heures du matin. Vous êtes le juge et je suis l'accusé. Vous devez comprendre qu'il me faut un puissant effort d'intellect et, comment dirais-je, un ramassement de toutes mes facultés disloquées pour concevoir, pour reconnaître que vous êtes vous, que je suis moi, et que nous ne dormons pas l'un et l'autre, que nous sommes vraiment dans la vie, non dans le cauchemar. Mais que vont penser de moi mes amis? Savent-ils au moins quelle charge pèse sur moi et de quoi je suis accusé? Leur a-t-on expliqué, dans l'agence Havas, que c'était un simple mais bien cruel malentendu? Mais ne craignez-vous pas qu'ils me prennent pour un ennemi du pouvoir, pour un anarchiste? Ah, ce serait affreux! Je ne puis pas supporter cette idée. Tout, mais excepté cela. Voyons, monsieur le juge, mettez-vous à ma place pour un moment et raisonnez un peu. La main sur la conscience, devant le dieu des ralliés et de Spindler qui vous entend, ça ne vous paraît-il pas extraordinaire, ce qui m'arrive? N'est-ce pas une aventure unique et prodigieuse et qui confond la raison? Comment le gouvernement, tout d'un coup, par une inexplicable lubie, change de morale? Il abandonne tout un long, pratique et glorieux système de corruption, mécanisme admirable et nécessaire qui fonctionnait depuis des siècles à merveille, et pour le bien de tout le monde. Il se permet, on ne sait pourquoi, de trouver criminel et déshonorant aujourd'hui ce qu'hier il encourageait, il récompensait si notoirement. Et il ne nous prévient pas, et il ne nous avertit pas. Et vous croyez que ce sont là des procédés délicats, des procédés dont on use entre vieux camarades? Oh, mais je suis abasourdi et les bras m'en tombent. Tenez, monsieur le juge, il faut que je vous dise. 3 jours avant cette inexplicable aventure, je suis allé au ministère. J'y ai touché ma part mensuelle des fonds secrets. Tout le monde fut charmant avec moi, de l'huissier au ministre. Le ministre et moi, nous eûmes une conversation fort gaie. Il me parla de la petite Rose la Rose, dont nous vantons chaque jour les mérites aux échos du journal. Il me félicita aussi, je me rappelle, de l'ardente et courageuse campagne que je mène contre les socialistes. Sa gaieté communicative, sa ronde bonhomie, sa confiance, son amitié, puis-je dire, son émotion même, pour cela fit que je me crus autorisé à lui demander un petit supplément. Et voici textuellement ce qu'il me répondit. « Non, pas ce mois-ci, nous n'avons plus le sou. Mais le mois prochain, peut-être, je ferai mon possible. Vous savez que je tiens, vous êtes agréable. » Il me serra la main. Avec quelles effusions, Seigneur Dieu! Et 3 jours après, sans un mot de lui, sans un signe de son huissier, sans un avertissement de personne, il me fait arrêter, jeter dans une cellule de Mazas. Il me traite comme un vulgaire criminel qui eut commis cet irréparable crime de ne point trouver belle la physionomie de M. Casimir Perrier. On me confond avec de pâles voyous, de sinistres bandits, ennemis du gouvernement et de la société. Ma cellule est voisine de celle qu'habite un odieux gredin, coupable de lèse-majesté, de lèse-chambre, de lèse-sénat. Je suis exposé, moi, à entendre chaque jour des théories subversives et des paroles de révolte. Vous avouerez que c'est fort désobligeant. Mais c'était si simple d'éviter tout cela, c'était si facile de s'entendre. Le gouvernement n'avait qu'à nous convoquer, nous, ses meilleurs amis et ses plus dévoués défenseurs, et nous dire: mes amis, j'ai décidé que ma morale ne serait plus la même à partir de demain matin. Oui, demain matin à 8 heures, j'inaugure un nouvel état de choses. Je vous préviens qu'au lieu de décorer mes amis pour chantage exceptionnel, je les ferai empoigner par M. Clément. Comme vous m'avez toujours été scrupuleusement soumis, j'espère qu'à partir de demain matin, à 8 heures, vous allez être tous transformés en honnêtes gens. Naturellement, je sais ce que je vous dois et tout le préjudice que peut vous causer mon nouveau système. Il est probable que vous avez quelques petites affaires en train que le brusque revirement de ma politique pourrait compromettre. J'en tiens compte et vous ne perdrez rien. La France est un admirable, un inlassable pays où l'on peut toujours puiser de l'or, à même son sol, son commerce, son industrie, ses pauvres. Et le budget n'est pas fait pour les gueux, que je sache. Donc, mes chers amis, acceptez de bonne grâce de vous déguiser, mon Dieu, le temps d'une expérience, de vous déguiser en honnête et respectable personne. Et je vous promets que demain matin, à 8 heures, non seulement je ne diminuerai pas votre participation, si légitime, au fond secret, mais que je la doublerai, la triplerai, la quadruplerai. Essayons de la vertu, puisque le vice ne nous réussit point. Un tel langage eût été correct, et l'on aurait pu discuter. Moi, par exemple, j'eusse tenté de démontrer au gouvernement qu'il s'embarquait sur une mer de chimères dangereuses et d'innavigables illusions. Et pourtant, le débat plus haut, dans les sphères supérieures de la philosophie et de l'économie politique, j'eusse revendiqué la liberté du chantage, qui est un des droits sacrés, un des droits inviolables de l'homme civilisé. Que dis-je? Un droit qui est une loi de la nature. Le chantage, monsieur le juge, Darwin l'appelait autrefois la lutte pour l'existence. Le chantage, mais c'est aussi une nécessité économique qui met aux prises les activités humaines, assure la circulation et l'échange des capitaux. Remarquez que je n'ai pas dit le libre-échange pour ne pas froisser M. Méline. Oh, j'eus sorti bien d'autres arguments. Et si le gouvernement n'avait pas été convaincu, eh bien, me serais soumis, car je suis de ces hommes qui ne se démontent jamais et qui se soumettent toujours. Et puis, qu'est-ce que cela aurait bien pu me faire de devenir honnête homme, du moment que je n'y perdais pas un sou et que j'y gagnais au contraire un redoublement de confiance auprès du gouvernement et de plus sérieux, de plus fréquents émargements au fonds secret? Le juge dodelinait de la tête. C'est un point de vue, fit-il. Et le congédiant, il le remit entre les mains des gardes.